1 Pierre chapitre 1 versets 15 et 16. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saint, car je suis saint. Dans notre lecture biblique, ici, nous avons l'appel élevé à la vie éternelle en Jésus-Christ. Cet appel à la vie éternelle est élevé. Il est sans équivoque. Est-ce que vous pouvez voir comment cet appel se saisit de nous et veut mettre en activité toutes les facultés de notre esprit pour nous faire penser, cogiter, qu'est-ce que c'est que Dieu, il me demande? N'est-ce pas quelque chose qui est impossible? Nous voulons réfléchir. Et donc, maintenant que nous voulons et que nous commençons à réfléchir à cet appel élevé, nous y retournons et nous lisons un peu plus avant, au verset 13, 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 16. C'est pourquoi ayez saint les reins de votre entendement et étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saint, car je suis saint. Et l'apôtre Pierre ici, il vient de reprendre les paroles de Dieu dans Lévitique, où Dieu disait aux enfants d'Israël, soyez saints, car je suis saint. Et ici, l'apôtre, sous la dispensation chrétienne, il vient, ramène le joug de l'obéissance sur le cou du chrétien et lui dit, ne dites pas que Dieu est différent maintenant, soyez saints dans toute votre conduite, comme lui-même, il est saint. C'est l'appel auquel Jésus a lui-même fait référence dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 verset 48. Où il disait, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Parfait. Saint comme il est saint et comme il est parfait. C'est la vocation céleste et élevée. C'est notre appel à être comme Dieu en Jésus-Christ. Et l'appel, il est davantage exprimé, vu sous un autre angle dans Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Que quelles choses occupent mes pensées ? Toutes les choses qui sont pures, honnêtes, aimables, véritables, justes, de bonne réputation, vertueuses et dignes des louanges, de l'approbation de Dieu. Est-ce que vous avez pensé comme ça ? Est-ce que vos pensées sont comme ça ? Tel est l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est ce que la parole appelle la vocation céleste. C'est écrit dans Philippiens chapitre 3, verset 14, où l'apôtre Paul disait « Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est l'appel. Il n'y a pas d'autre appel. « Soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. » Et Jésus disait « Soyez parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » Pouvez-vous le faire ? Est-ce que vous pouvez y parvenir ? C'est important d'évaluer. Est-ce que je peux le faire ? Si je peux le faire, très bien. Si je ne peux pas le faire, j'ai besoin de savoir comment je peux le faire. Et il y en avait un qui pensait qu'il pouvait le faire. Il y en avait un qui pensait qu'il pouvait y arriver. Nous le trouvons dans Matthieu. Matthieu chapitre 19. Versets 16 à 22. C'est le jeune homme riche. Verset 16. Et voici quelqu'un s'approchant, lui dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sauf Dieu. Sauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, « Lesquels ?» Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que le jeune homme riche a dit à Jésus? Il a dit à Jésus, Seigneur, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bien pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je peux faire moi encore? J'ai fait plein de choses. Simplement dis-moi juste une autre chose que je peux faire et comme ça, c'est bon. J'aurai la vie éternelle, je suis prêt et tout m'est accordé. Tout est bon, tout est prêt, tout est là, tout est devant moi, c'est promis, c'est prêt, je suis parfait. Que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et le jeune homme lui répond, d'accord, je peux ça, je peux, c'est bon. Je suis capable. Lesquels? Dis-le-moi, fais la liste. Et Jésus, il lui fait la liste. Tu ne tueras point. Il lui fait la liste de la deuxième table. Parce que d'abord, il veut voir. Est-ce qu'il croit vraiment qu'il a gardé tous ces commandements-là qui ont à voir avec le prochain? Avec comment je traite le prochain, mon prochain. Et quand il lui a fait toute la liste, quand Jésus lui a énuméré toute cette deuxième table de la loi de Dieu, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses-là. Tout ça, c'est bon, Seigneur. Passe à la suite, maintenant. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Tout ça, c'est bon. Depuis ma jeunesse, rien me manque. Et il dit, que me manque-t-il encore? Il faisait la liste, il cochait. Ça, c'est bon. Merci, Jésus. Tout ça, c'est bon. Maintenant, dis-moi encore, comme ça, je coche encore. Comme ça, tout c'est bon. Tout est bon pour moi et comme ça je peux être certain que j'ai la vie éternelle et je serai encore plus assuré que je ne le suis déjà. Et donc, il dit, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Donc Jésus, il le sonde. Il vient et dans sa miséricorde, il ne lui met pas tout sur la table du premier coup. Il veut voir où est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il croit de lui-même? Comment est-ce qu'il se considère? Et il lui dit, d'accord, je t'ai énuméré les commandements, tu les fais, c'est bien, tu les fais, ok. Maintenant, si tu veux être parfait, il y a quelque chose, j'ai un autre commandement pour toi. Va, vends ce que tu as et le donne. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, quand tu as fait ça, quand tu es sûr, certain, 100% que tu as fait cela, après ça, viens avec moi et suis-moi encore. Suis-moi encore plus. Et qu'est-ce que le jeune homme riche il a fait quand il a entendu ça? Est-ce qu'il était réjoui que Jésus venait de lui révéler son gros problème? Quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Le jeune homme riche, il s'en alla tout triste parce que il voyait que Dieu lui demandait de lui donner son cœur. Mais il n'était pas prêt à faire ça. Il voulait être religieux sans renoncer à lui-même, sans suivre Jésus. Et donc il s'en alla triste parce que il était triste qu'il n'allait pas pouvoir satisfaire les exigences que Jésus lui présentait comme étant la parole de Dieu. Il voulait être en harmonie avec ce magnifique enseignant de la parole de Dieu, mais là, Jésus lui dit, d'accord, tu fais tout ça, c'est super bien, simplement, tu as beaucoup d'argent là, et je vois que tu es très accroché à tout ça, maintenant, laisse partir tout ça. Ton idole là, laisse-la partir, allez, jette-la, donne-la aux pauvres, et viens avec moi. Et adore Dieu en esprit et en vérité. Et là, quand le jeune homme, il est riche, il a entendu ça, il a fait, oh non, j'ai pas envie de faire ça, non. Et donc, il a décidé de garder ses richesses et d'abandonner la religion de Jésus-Christ. Et quel était le problème? Jésus lui disait, tu as fait des choses religieuses, moi je te présente la vocation céleste. C'est très bien, nous gardons les commandements, c'est très bien tout ça. Simplement, il se peut qu'on soit comme le jeune homme riche, on fait ces choses parce qu'on a l'impression qu'on est en train de gagner la vie éternelle. Le jeune homme riche est venu à Jésus et dit, qu'est-ce que je peux faire de bien pour obtenir la vie éternelle? Dis-moi et je coche la case. Je veux faire tout ça. Tout ce que le Seigneur, l'Éternel, il a dit, nous le ferons, nous obéirons, etc. Simplement ici, Jésus, il plonge la main, il dit, est-ce que je peux mettre mon épée dans ton cœur? Le jeune homme riche, il a fait, non, pas possible, non, j'adore pas Dieu comme ça, non, je garde mes richesses, ça va pas, non. Vous voyez, sa chair, de péché, sa nature humaine pécheresse lui a été révélée et il a vu qu'il n'était pas qui il croyait être. Telle est l'activité de Jésus sur le cœur du croyant. Le jeune homme riche était un croyant, il croyait en Dieu, il croyait en la loi de Dieu, un vrai adventiste du septième jour. Simplement, quand son puissant travers, son profond défaut lui a été révélé par l'appel de Jésus. Il s'en est retourné à vivre la vie qu'il vivait, mais dans le désespoir, parce qu'il ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu, à renoncer à lui-même, à crucifier le moi. Vous croyez que c'était une grande crucifixion de vendre tous ses biens? Bien sûr! Imaginez un peu. Prenons à cœur qu'est-ce que cela veut dire pour moi de faire l'appel que Jésus il présentait à cet homme riche. Vous me direz, mais moi j'ai pas beaucoup de biens, moi, je sais pas vraiment mon problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est est-ce que quand Jésus me vient à moi et pointe le doigt sur mon gros problème, est-ce que je suis prêt à dire à lui ouvrir mon cœur, à dire « Seigneur, je donne ça à toi, j'en veux pas, donne-moi toi. » Ou est-ce que je veux dire, je m'en vais tout triste à dire « Oh, je veux pas faire ça, la volonté de Dieu là, je vais garder mes richesses et être triste. » Mais pas triste selon Dieu. Triste comme Judas. Triste à m'en pendre. Plutôt que d'obéir à la volonté de Dieu. Et donc, nous posons la question à la lumière de cela, mais si c'est aussi grave que ça, si c'est aussi dramatique que ça, quoi alors? Quoi? Comment? Comment j'arriverai jamais là? C'est important que nous saisissions vraiment la question à la racine, que nous voyons où est notre problème pour que le Seigneur puisse régler notre problème, que nous puissions coopérer avec lui lorsqu'il nous dit « si tu veux être parfait ». Si tu veux être parfait, est-ce que tu veux être parfait? Soyez parfait comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Est-ce que tu veux être parfait comme ça? Et ensuite, lorsqu'il nous donne tous les conseils pour pouvoir accomplir cela, c'est là qu'il faut tendre l'oreille attentivement. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? D'accord, aide-moi là, parce que ma chair, elle fait des ravages dans mon être. Vous voyez, au lieu de se laisser attrister, dans l'égoïsme, l'égocentrisme total, puissions-nous laisser Dieu nous attrister à la repentance. Et donc, lorsque nous posons la question, que nous commençons à ressentir une interrogation de pouvoir, de comment est-ce que je vais jamais pouvoir approcher ce Dieu saint et parfait, nous lisons ce que Jésus a dit aux disciples à la lumière de tout ça. Verset 23, Matthieu 19, verset 23, la suite. Alors Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et dans l'autre évangile où les disciples disaient « Mais comment est-ce que c'est possible ?» Jésus, il a surenchéri en disant que c'est ceux qui aiment les richesses, ceux qui mettent leur confiance dans les richesses, qui ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Et vous me direz peut-être, mais je comprends pas, parce que moi je ne suis pas vraiment riche. Moi, je suis un peu pauvre, vraiment, dans l'affliction de la pauvreté. Ce passage-là, ça me touche pas vraiment. Ça passe un peu au-dessus de ma tête, quoi. Simplement, si vous réfléchissez attentivement et que vous vous souvenez des paroles du témoin véritable adressées à l'église de Laodicée, qui est la dernière église, l'église du jugement, l'église qui vit au temps du jugement qui nous est présenté dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7, et que nous savons est l'heure de l'activité actuelle depuis 1844, si vous réfléchissez bien, vous vous souviendrez ces paroles de Jésus à la dernière église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Quel est le riche qui ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu? Car tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Voilà le riche qui ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Oui, celui qui est riche en biens et qui met sa confiance dans ses biens, ce qu'il possède, mais aussi celui qui est riche en biens spirituels, riche en vérité, riche dans les paroles de la Bible, riche en révélation de l'esprit de prophétie, celui qui est riche en tout cela et qui s'assoit sur son sentiment qu'il s'est enrichi et qu'il n'a plus besoin de rien. Qu'il est dans une position satisfaisante et qu'il se satisfait de la position dans laquelle Dieu l'a amené en lui révélant sa vérité. Cette personne-là qui est riche, est-ce que je me sens riche comme cela? Est-ce que je mets mon assurance dans cela? Alors, cela s'applique à moi. Celui qui se considère comme spirituellement riche et privilégié n'est pas apte à entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, Réfléchissez, réfléchissons attentivement maintenant. Parce que c'est bien de faire des sermons, c'est bien de parler de la Bible, mais lorsque nous sommes confrontés à la réalité de ces choses-là, qu'est-ce qui nous arrive? Quelles sont les réactions qui surgissent à l'intérieur et qui explosent vers l'extérieur en partant de notre cœur, de la racine de ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes attristés et que nous nous en allons tout tristes à chaque fois que Dieu nous révèle sa vocation élevée? Est-ce que nous avons en nous la capacité de répondre de manière correcte et juste à son appel? Est-ce que nous réalisons? Est-ce que je réalise que je n'ai pas bien répondu à son appel, que je me suis endurci, que je m'en suis allé tout triste comme ce jeune homme riche, en entendant l'appel frustrant de la parole de Dieu? Eh bien, si nous ressentons et nous réalisons un degré de notre besoin à la lumière de cet appel, alors notre langage, c'est comme les disciples dans Matthieu 19, verset 25. Ces disciples ayant entendu cela furent fort étonnés et ils disaient, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Parce qu'ils avaient vu ce jeune homme riche s'en aller et ils avaient entendu Jésus commenter sur cette réaction et leur dire que toute personne qui met sa confiance dans ses possessions ou bien dans ce qu'il croit avoir, comme le Laodicéen typique, toute personne qui se comporte comme cela à l'intérieur d'elle-même, elle ne peut pas être sauvée, être dans le royaume de Dieu. Et donc les disciples se sont dit, mais on n'y arrivera jamais, nous. Même nous. Ils se sont trouvés confrontés à la réalité que ce qui était le problème du jeune homme riche, c'était aussi leur problème. Parce que eux aussi, ils s'attendaient à recevoir des choses pour ce qu'ils avaient fait. Parce que Pierre, juste après, il a dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, que nous arrivera-t-il donc? Le jeune homme riche, il avait dit, qu'est-ce que je peux faire de bien pour obtenir la vie éternelle? Et maintenant, Pierre lui montre qu'il avait à peu près le même esprit à l'intérieur de lui. À la différence près que lui et les autres disciples, ils avaient renoncé à de nombreuses choses, à leur profession, à leurs attentes de devenir riches selon les choses de ce monde. Simplement, ils n'avaient pas complètement renoncé à ces choses parce qu'ils s'attendaient à ce que Jésus soit fait roi, à ce que Jésus soit couronné comme roi littéral et physique et immédiat d'Israël. Et comment est-ce que Jésus, il répond là? Jésus, il voit qu'ils n'ont pas capté et donc il passe à autre chose. Il passe à autre chose. Et d'où notre besoin impératif de faire attention à ce que Dieu nous dit de peur qu'il passe à autre chose. En voyant que nous sommes si imprégnés de nos propres idées, de nos propres motivations, de nos propres projets, que nous passions complètement à côté de ce qu'il veut, il essaie de nous dire dans sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il a dit, je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes. Il est passé à autre chose. Est-ce que vous réalisez? Vous me direz, mais oui, mais c'est vrai que les 12 disciples, ils seront sauvés, ils seront assis sur 12 trônes, d'accord? Simplement, il leur restait un problème qu'ils n'ont toujours pas géré. C'est le fait de croire que ce que je fais va me mériter l'approbation de Dieu. Le jeune homme riche, il est arrivé à Jésus, il a dit, voilà, j'ai tout fait bien, j'ai coché toutes les cases Dis-moi, montre-moi toutes les autres cases que j'ai pas encore réalisées et je vais les cocher, je vais tout faire bien et ça sera bon et je serai entré dans le royaume de Dieu. Jésus, il a dit, ce genre de personnes, ils ne vont pas entrer dans le royaume de mon Père. Et donc les disciples, ils ont dit, dans l'agonie d'une réalisation un peu temporaire, mais qui était quand même venue du plus profond de leur être, qui peut donc être sauvé, Seigneur? Seigneur, si lui ne peut pas être sauvé, c'est fini pour nous. Regarde lui comment il garde tout bien les commandements depuis sa jeunesse, là comme il l'a dit, il a tout bien fait. Et nous, on a été des pêcheurs de poissons, on a fait tout plein de choses que tu n'aimerais pas regarder. Si lui ne rentre pas dans ton royaume, Seigneur, c'est fini. C'est fini. Je ne vois pas, je ne comprends pas, Seigneur. Et Jésus, les regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible. Mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Et la manière dont c'est exprimé autre part, c'est « toutes choses sont possibles à Dieu ». Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Et donc il leur disait, du point de vue humain, non, ne raisonnez pas comme ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être sauvés du point de vue humain charnel. N'essayez même pas de voir comment vous allez vous en sortir, c'est terminé. Mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles à Dieu. Vous voyez le genre de raisonnement divin qui s'introduit dans notre esprit à travers la parole de Jésus? Il dit « à ma tête endurcie et rendue stupide par les raisonnements de la chair », il dit « quant à Dieu, toutes choses sont possibles à Dieu, mais quant à toi, rien n'est possible. Tout est impossible. Tout est impossible. » Vous savez, dans la culture française, nous disons « impossible n'est pas français ». Mais pour être honnête, ça, c'est n'importe quoi, parce que « impossible », c'est français, c'est chinois, c'est espagnol, c'est russe, c'est américain, anglais, britannique, tout ce que vous voulez. « Impossible », c'est l'être humain. L'être humain, à l'être humain, la loi de Dieu est impossible. Donc lorsque nous disons « impossible » n'est pas français, en réalité nous disons « les choses de la chair ne sont pas impossibles ». Nous pouvons faire toutes les choses de la chair, c'est complètement possible. Simplement, Jésus a dit « quant aux hommes, c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu ». Et donc maintenant, si nos cœurs sont saisis par l'impossibilité de jamais pouvoir entrer dans le royaume céleste de Jésus-Christ, alors nos cœurs sont ouverts à recevoir le message des possibilités qui nous sont ouvertes. Allons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. Directement en rapport avec ce que Jésus il a dit, vous allez voir, c'est directement associé et indissociablement relié à ce que nous venons de lire. Verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment est-ce qu'il nous rémunère? Par l'héritage éternel et terminal de la vie éternelle. Ça, c'est la rémunération. Et comment est-ce que je peux lui être agréable ici-bas pour pouvoir être rémunéré de cette façon, à la toute fin? Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Et quel genre de foi? La foi qui croit que en m'approchant de Dieu, je crois que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est le message? Souvent, nous lisons la parole, nous ne comprenons pas vraiment. Et donc, nous croyons avoir reçu le message. Et puis, lorsque nous sommes confrontés aux réalités terre à terre de ce monde dans lequel nous vivons, où nous devons faire face aux tentations du diable, aux influences du monde et aux terribles, abominables travers de la chair de péché, nous n'avons pas de réponse face à ces situations. Qu'est-ce que c'est qui est écrit là? Si je veux lui être agréable, si je l'aime, mais que je ne sais pas comment lui être agréable, alors il me faut exercer la foi. Quelle foi? La foi qui se soucie de ce que je le cherche. S'il me rémunère, est-ce qu'il fait ça d'une manière légaliste? S'il me rémunère, c'est qu'il a envie de manifester son approbation. Il rémunère. Lorsque vous travaillez, vous avez un emploi, vous êtes rémunéré. Pourquoi est-ce que vous êtes rémunéré? Parce que vous avez fait des choses. À la différence seule que ici, Dieu nous rémunère selon les mérites de Jésus-Christ, à travers la foi. Comme c'est écrit, je crois, dans Romains chapitre 4. Ce n'est pas un dû, c'est un don de Dieu. Simplement, pour recevoir ce don de Dieu, il nous faut la foi que Dieu se soucie suffisamment de moi pour me rémunérer lorsque je fais preuve de la foi de Jésus. Et donc, d'accord, nous apprenons que sans la foi, je ne peux pas lui plaire et qu'il me faut cette foi qui croit que Dieu est. Et quelle est cette foi? Quelle est cette foi? Galates, chapitre 5, verset 6. On va lire même le verset 5, qui qualifiera ce que nous venons de lire juste avant. Car pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice par la foi. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par l'amour. Qu'est-ce qui est efficace? Ce n'est pas la circoncision comme ce jeune homme riche qui gardait tous les commandements depuis sa jeunesse, ou du moins qui croyait avoir gardé tous les commandements. Ce n'est pas non plus l'incirconcision, qui ne connaît pas Dieu, les gentils, les païens. Mais quoi? Qu'est-ce qui est efficace? La foi agissant par l'amour. Donc c'est impossible pour moi de lui être agréable sans la foi. Et ici, nous lisons que la seule chose qui est efficace, que en Jésus-Christ, ce qui est efficace, c'est la foi agissant par l'amour. Et donc, comment est-ce que je peux être agréable à Dieu? Par la foi qui seule est efficace en Jésus-Christ, cette foi qui agit par l'amour. Et bien entendu, il ne s'agit pas ici de mon amour, pas de mon amour, que moi-même j'ai généré, que moi-même j'ai produit, mais d'autre chose, d'un autre amour. Et lisons ici pour cela, dans le livre Jésus-Christ, à la page 11, au paragraphe 3. Quel est l'amour qui doit animer ma foi pour que je puisse être agréable à Dieu et que les choses qui me sont impossibles puissent être rendues possibles? Je lis ici. Il est écrit: parce que Dieu a été méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Pour dissiper ces ombres lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat, car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement de Dieu. Dieu ne désire que le service de l'amour. Or, l'amour ne se commande pas. Il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Il fallait que son caractère soit manifesté en opposition avec celui de Satan. Cette œuvre ne pouvait être accomplie que par un seul être, unique dans tout l'univers. Celui-là seul qui connaissait la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu était capable de le révéler. Sur la sombre nuit enveloppant le monde, devait se lever le soleil de justice, portant la santé dans ses rayons. Donc comment est-ce que j'aurais cette foi qui agit par l'amour, cette foi par laquelle seul je peux être agréable à Dieu et par laquelle les choses qui me sont impossibles deviendront possibles? Comment est-ce que j'aurai cet amour? C'est écrit ici, l'amour seul éveille l'amour. Et pourquoi? Dieu ne désire que le service de l'amour. Or, l'amour ne se commande pas. Il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. Est-ce que vous pouvez forcer quelqu'un à vous aimer? Est-ce que la personne va vous aimer si vous la forcez? N'est-ce pas exactement l'inverse qui va se produire? Et donc, Dieu était confronté et est confronté à cette loi de la réalité et il a dû éveiller en nous l'amour pour que nous puissions lui offrir le service de l'amour. Et ce passage, il est tellement important et c'est tellement impératif pour nous de comprendre l'impact de ces paroles, de l'esprit de prophétie, du témoignage de Jésus, pour que à chaque fois que nous lisions les exigences de la parole de Dieu, nous comprenions qu'est-ce qui est vraiment impliqué? De quoi est-ce que, de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment dans cet appel, cette vocation céleste et élevée? Il ne désire que le service de l'amour, et l'amour ne se commande pas. Et donc lorsqu'il demande mon service, à la lumière de quoi demande-t-il mon service? C'est que il a révélé l'amour du Père. Jésus nous a aimés pour que nous puissions l'aimer. Et qu'est-ce que c'est? Si ce n'est que il a porté mes péchés. Il a porté nos langueurs, comme c'est écrit dans Ésaïe 53. Nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Il s'est chargé de tout cela. Et dans Lamentations chapitre 1, verset 12, il dit « N'êtes-vous pas touchés, vous tous qui passez par le chemin, voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, dont le Seigneur, l'Éternel, m'a affligé. » Parce que comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, lui qui ne connaissait pas le péché, Dieu a fait venir sur lui, il l'a fait devenir péché, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. Et ces choses ne sont qu'une expression de cet amour. Cet amour, il est à la source de ces choses. Ces choses, elles viennent pour nous exprimer à nous, êtres humains déchus, quel est ce sentiment, cette émotion profonde qui bat dans le cœur du Père et par laquelle il nous attire à lui. Et comment est-ce qu'il nous attire à lui si ce n'est par cette activité de 1 Jean chapitre 1? 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle, mais quel genre de fidélité? N'est-ce pas qu'il est aimant? N'est-ce pas ça, sa fidélité? N'est-ce pas qu'il est compatissant? N'est-ce pas qu'il est miséricordieux? N'est-ce pas qu'il se soucie de l'homme? C'est important de lire entre les lignes à la lumière des autres choses que l'on lit de lui dans la parole de Dieu et dans l'esprit de prophétie, que l'on ramène toutes ces choses ensemble, parce que imaginez-vous une lettre aussi longue dans laquelle Dieu exprime son cœur à nous. Nous avons besoin de toujours nous souvenir de tous les extraits, toutes les parties de cette longue lettre pour ne pas occulter une partie primordiale de son caractère pour nous, pour qu'on ne passe pas à côté d'une chose qui est vitale pour notre vie et notre renouveau spirituel. Et donc, pour conclure cette méditation, j'aimerais lire dans Jésus-Christ, à la page 289, au paragraphe 4. Pour commencer. Parce que cette promesse qu'on a dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, ce qui est contenu dans ces choses-là, c'est que lorsque j'ai transgressé contre l'Éternel, lorsque je l'ai contristé, lorsque je l'ai crucifié de nouveau. Il a un cœur tel qu'il se révèle à moi comme étant prêt à me pardonner mes péchés et à me purifier de toute iniquité, à reprendre le processus là où je l'ai laissé dans ma négligence et mon endurcissement. Il est prêt à me recevoir comme ça. Il est prêt à nous recevoir. Lorsque nos cœurs sont contrits à l'idée que j'ai pu faire une telle chose contre mon Seigneur. Et donc maintenant, dans ce passage de Jésus-Christ 289:4, c'est exprimé, c'est agrandi à notre esprit. Il est écrit « Une douleur sincère à l'égard du péché est le résultat de l'opération du Saint-Esprit. L'Esprit révèle l'ingratitude du cœur qui a fait peu de cas du Sauveur et qui l'a contristé. Et il nous amène repentant au pied de la croix. Chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure. Et quand nous regardons à celui que nous avons percé, nous pleurons sur les péchés qui l'ont affligé. De telles pleurs conduisent à renoncer au péché. Les gens du monde verront peut-être dans cette douleur une faiblesse, mais c'est au contraire la force qui unit indissolublement l'âme repentante à l'infini. Elle montre, cette douleur montre que les anges de Dieu rapportent à l'âme les grâces que lui avait fait perdre l'endurcissement du cœur et la transgression. Les larmes de la repentance ne sont que les gouttes de pluie qui précèdent le resplendissement du soleil de la sainteté. Cette douleur est l'avant-coureur d'une joie qui sera pour l'âme une source de vie. Seulement, elle cite ici Jérémie 3, versets 13 et 12. Seulement reconnais ton iniquité, que tu t'es révolté contre l'Éternel ton Dieu, et je ne ferai point tomber ma colère sur vous, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Elle cite Ésaïe 61, verset 3. À ceux de Sion qui sont dans le deuil, il se propose de donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Oui, seulement reconnais ton iniquité, que tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu. Et lorsqu'on reconnaît, lorsque on fait face à ces paroles tranchantes de la parole de l'Éternel, qui est miséricordieux, et que dans notre douleur pour le péché, on lui confesse nos fautes, qu'est-ce qu'il fait? À ceux de Sion qui sont dans le deuil, nous sommes dans le deuil pour nos péchés, nos transgressions qui ont infligé une nouvelle blessure au Seigneur Jésus, eh bien il se propose de nous donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ça, c'était les paroles que Jésus lui-même a presque citées lorsqu'il s'est trouvé dans la synagogue et qu'il a ouvert le rouleau de la loi et qu'il a lu Ésaïe 61, verset 1. Allons-y brièvement dans Luc, chapitre 4, verset 16. Luc 4, verset 16. Et Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Puisse le Seigneur imbiber nos âmes de cet amour de Dieu qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ pour éveiller en nos cœurs contrits l'amour de Dieu, pour que nous ayons la foi qui agit par la charité qui nous rend agréable à Dieu et par laquelle toutes choses sont possibles à Dieu. Lorsque nous nous confessons nos fautes, que nous nous repentons et que nous nous soumettons à ce changement du deuil au manteau de louange, de la cendre à l'huile de joie qu'il nous offre. C'est ma prière qu'on puisse faire cela et se soumettre à cette puissance de l'amour de Dieu qui rend toute chose possible. Amen.